êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny, diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée, ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia.
Amen.
Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu une fois encore pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Tous les jours, il nous rappelle et nous prouve à nouveau sa fidélité. Même quand nous dormons, lui ne sommeille pas et ne somnole pas. Et quoi que nous fassions, lui, il est fidèle, il est au rendez-vous. Mon message aujourd'hui va avoir rapport à l'idolâtrie. Vous savez que c'est d'actualité. Puisqu'au début de chaque année, à peine 10 jours écoulés, nous consacrons le pays au diable. Et donc, nous autorisons le diable à commencer à ravager le pays pour les 355 jours qui restent. Et je crois que nous le faisons beaucoup par ignorance. Chaque année, depuis 2 ans, je publie sur le sujet. Et cela me permet non seulement d'exhorter les gens et de proposer aux gens d'arrêter de se perdre, mais cela me permet surtout de les lire en retour. Et je lis ainsi des centaines de personnes de toute nature. Et cela me permet de mieux comprendre quelle est la logique dans laquelle ces gens-là sont dans l'ignorance. Parce que vous devez savoir que nous sommes des chrétiens. Et nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais nous devons combattre plutôt les esprits qui les animent. Quand nous parlons d'idolâtrie, nous n'avons rien contre l'idolâtre. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et il faut avouer que plusieurs de ceux qui sont aujourd'hui des chrétiens ont été d'abord de grands idolâtres. Il faut aussi avouer, hélas, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui continuent de faire de l'idolâtrie. Et à un autre niveau, chacun de nous a aussi, hélas, ses formes d'idolâtrie. Il est important de bien clarifier les choses. De ne pas agir de manière belliqueuse ou de manière à créer d'inutiles combats. Mais nous devons quand même agir. Notre action ne doit pas se placer dans le cadre du combat entre religions. Ce n'est pas une question de religion. Et la première chose que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est la différence qui entre la foi et la religion. Les hommes ont de nombreuses religions. Et c'est normal qu'ils ne s'entendent pas sur leur religion. Mais la religion, ce n'est pas de la foi. Et la foi n'est pas la religion. Il est normal que toutes les religions soient mauvaises en quelque chose. Jésus le confirme d'ailleurs dans son message aux sept églises au niveau d'Apocalypse. Avec les différentes églises, la Odyssée, consorts. À chaque église, Jésus dit, voilà ce que j'aime en toi, voilà ce que je te reproche. Donc, ses forces et ses faiblesses. Donc, il n'y a effectivement pas de religion parfaite. Mais il y a une seule foi. La Bible nous dit que nous sommes appelés à une seule foi. Et s'il est normal que chacun ait son opinion sur la religion, il n'est pas normal qu'il y ait deux fois. Quelle est la différence entre la religion et la foi? Il y a, et c'est là en fait tout le problème de l'idolâtrie. Et c'est pour ça que je dirais que toutes les religions font de l'idolâtrie. Il y a des idolâtres parmi les protestants. Il y a des idolâtres parmi les évangéliques. Il y a des idolâtres parmi les catholiques. Les
animistes,
n'en parlons pas, c'est leur plat de résistance.
Nos
frères christianistes célestes, ils aiment beaucoup ça. Donc, il y a des idolâtres dans toutes les religions. Mais quelle est la différence entre la religion et la foi? Vous savez, il faut retourner dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en lui donnant la grâce de sa communion. C'est-à-dire, Dieu était en permanence avec Dieu dans le jardin d'Éden. Et donc, l'homme a été créé pour se sentir bien seulement en présence de Dieu, quand il sent Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, Dieu siège en la louange. Quand nous sommes en train de louer Dieu, il y a quelque chose, on sent quelque chose. Mais ce quelque chose là dépasse tout ce qu'on peut avoir ailleurs. C'est pour ça que quand la louange s'arrête, tout le monde reste toujours sur sa faim parce qu'on voudrait que ça ne s'arrête jamais. Quand vous êtes sanctifié et que vous rentrez spirituellement en connexion avec Dieu, on sent quelque chose, on prie pour que ça ne s'arrête jamais. Et là, ça s'arrête. Parce que Dieu nous a fait en sorte que, de même que notre corps a besoin d'oxygène pour respirer, notre esprit a besoin de sentir le Saint-Esprit pour se sentir bien. Donc, quand l'homme ne sent pas la présence de Dieu, il commence à essayer de rechercher la présence de Dieu, ou de rechercher en toi quelque chose qui va le rassasier de sa faim de la présence de
Dieu.
Et nous avons déjà vu par exemple que si les gens sont si dépendants que ça de l'amour, alors que Dieu est amour, c'est toujours cette faim de Dieu. Mais quand on ne l'a pas avec l'amour de Dieu, on tombe dans la sexualité, dans une série de choses. Il y a quelque chose là dont l'homme a besoin. Tu peux avoir tous les biens du monde, tu peux avoir tout le pouvoir du monde. Si personne ne t'aime, tu ne peux pas être heureux. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Nous avons besoin de l'aimer, nous avons besoin qu'il nous aime, nous avons besoin de le sentir pour être bien.
Et
donc, quand Adam et Ève se sont fait piéger par Satan, Dieu s'est fâché et les a sortis du jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'ils sont spirituellement morts. Ils ne sont pas morts parce que Dieu voulait les punir. Parce que Dieu nous aime, il ne peut pas ne pas nous aimer. Et alors que nous étions pécheurs, il nous a aimés. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est des chrétiens. Dieu aime aussi les pécheurs. Il nous a dit qu'il déteste le péché, mais il aime les pécheurs. Donc même quand Adam et Ève ont péché, Dieu les aimait. La preuve, ils ont pris des feuilles. Qu'est-ce que les feuilles peuvent faire pour protéger quelqu'un? Dieu leur a donné des vêtements avec des habits tirés d'un mouton. Mais pourquoi Dieu les a sortis du jardin d'Éden? Satan est venu les piéger en leur disant quoi? Dieu a dit de faire ci, ou plus précisément Dieu a dit de ne pas manger ce fruit. Il ne leur a pas dit que Dieu est mauvais. Il ne leur a pas dit que lui il est le diable, mais il leur a proposé de faire autre chose en leur disant que c'était la même chose. Manger le fruit, c'est la même chose. Vous allez être encore mieux. Donc, ne faites pas trop attention à ce que Dieu a dit rigoureusement, c'est la même chose. Vous ne voyez pas que c'est beau. Vous ne voyez pas que c'est doux. Ils l'ont écouté. Et ils ont désobéi à Dieu. De la même manière aujourd'hui, on nous dira, mais l'idolâtrie, c'est la même chose, c'est le même Dieu. Chacun adore Dieu comme il veut dans son cœur. On n'a pas besoin de faire comme Dieu dit. Vous ne voyez pas que c'est beau, vous ne voyez pas que c'est culturel, vous ne voyez pas que c'est folklorique. Non, Dieu n'a pas dit de ne pas adorer les idoles, il a juste dit de faire le bien.
Ça,
c'est le discours de Satan depuis le jardin d'Éden, il n'a pas changé. Et Adam et Ève sont tombés dans le panneau. Mais pourquoi Dieu les a sortis du jardin? Parce qu'il y avait dans le jardin deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ne devaient pas manger. Et l'arbre qui fait qu'on réfléchit au lieu d'obéir bêtement. Mais il y avait un deuxième arbre. Il y avait l'arbre de la vie. L'arbre qui était Christ. Et quand on mange cet arbre là, on jouit de la vie abondante et éternellement. Alors, s'ils obéissent à Satan, comme ils l'ont fait, cela veut dire qu'ils sont devenus les serviteurs de Satan. Satan a le pouvoir de leur commander ce qu'il veut et ils vont le faire. À partir du moment où ils font ce que Satan veut, s'ils prennent l'arbre de la vie, ils vont avoir la puissance de Dieu pour faire ce que Satan leur a commandé. S'ils prennent l'arbre de la vie, ils vont vivre éternellement dans cette situation de pécheur à la solde de Satan. C'est pour ça que Dieu a dit, il ne faut pas que l'homme vive longtemps comme ça. Je ne peux pas permettre que cette situation devienne éternelle. Il faut d'abord les sortir du jardin d'Éden et les éloigner de l'arbre de la vie. C'est comme ça qu'ils ont été chassés et que Dieu s'est assuré qu'ils ne reviennent pas dans le jardin avant que Dieu n'ait dit que c'est bon. Mais à partir du moment où ils sont sortis du jardin, ils ont commencé à souffrir. Ils ont vu la différence entre une vie d'onction, une vie de puissance, une vie où tout ce que tu dis s'accomplit, une vie de grâce, une vie de faveur. La vie que le chrétien qui est en commun avec le Saint-Esprit expérimente est la vie du monde sans Dieu. Ils vont donc naturellement et très rapidement commencer à avoir faim de Dieu. Dieu a commencé à leur manquer. Et donc, il fallait bien qu'il trouve Dieu. Parce que sans Dieu, il n'était plus bien. Sans Dieu, la Bible nous dit que le mal se multipliait sur la terre. Et l'homme commençait à souffrir. Voilà que Dieu a déjà dit de ne plus venir dans le jardin d'Éden. Et qu'il ne se révélait plus à eux. Comment ils vont faire? Ils ont besoin de Dieu. Dieu ne veut pas venir à eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à essayer d'inventer Dieu. Ils vont commencer à chercher à fabriquer des petits dieux, des choses pour essayer de retrouver Dieu. Ils vont essayer de commencer à chercher Dieu. Un homme peut chercher Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Si Dieu ne veut pas que tu le vois, si il ne veut pas que tu le trouves, tu ne le trouveras jamais. L'homme a multiplié les cultes païens. Il prend l'arbre, il dit c'est Dieu qui a créé l'arbre. Comme on sent qu'il y a des pouvoirs dans l'arbre, l'arbre porte des fruits, l'arbre guérit des maladies, parce que Dieu l'a créé. On va commencer à adorer là parce que Dieu, après tout, là c'est un petit Dieu qui est là. On sent la puissance de Dieu dedans. Ah, Dieu envoie la pluie. La pluie nous donne la vie. La pluie fait pousser nos récoltes. Donc, la pluie est essentielle. Ça, c'est comme un Dieu qui est en train de nous bénir là. Désormais, à chaque pluie, on va chanter, on va danser. Un Dieu s'appelle la pluie. Mais regardez bien. Ce qu'on appelle l'animisme et l'idolâtrie, c'est l'homme qui est capable de trouver Dieu, commence à adorer ce que Dieu a fabriqué. Le Saint-Esprit me donne un exemple. J'ai écouté beaucoup d'émissions des grands prêtres de ci, des grands maîtres de ça hier, parce que j'étais curieux de voir quelle est leur logique. Et ça m'a permis de comprendre que c'est exactement dans cette logique qu'ils sont. Ils sont en train de chercher Dieu.
Ils
disent le vaudou, c'est l'homme qui est en quête de Dieu. C'est là tout le problème. L'homme ne peut pas être en quête de Dieu. C'est Dieu qui trouve l'homme.
Voilà. Les
Et donc, à défaut de trouver Dieu, ils essaient de repérer les fruits de Dieu, les créations de Dieu, et de donner à la création de Dieu le culte, l'amour, la dévotion qu'ils auraient bien voulu donner à Dieu, mais Dieu ne se montre plus à eux. Le Saint-Esprit me dit que c'est exactement le phénomène suivant.
Quand
par exemple, deux personnes sont mariées, ou bien quelqu'un a son parent qui meurt, au début il pleure parce que le parent n'est plus là. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une chemise que la personne aimait, ou il trouve une photo de la personne, ou il trouve un bijou que la personne portait, il trouve une chaise sur laquelle la personne portait, et il commence à adorer la chose. Quand l'habit est là, il sent que son parent est proche de lui. Et il se met devant la photo, il pleure, il parle à la photo, en parlant au mort qui n'est plus là. Ou bien. Donc quand l'homme n'a pas la personne qu'il veut aimer, il cherche quelque chose qui était rattaché à la personne et commence à aimer la chose. C'est ça l'idolâtrie. Et c'est pour ça que les gens créent des statues. Ils adorent les statues. Ils créent des photos de saint-ci, de cœur, de ci, de ça, pour l'adorer. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la chose en vérité, en esprit et en vérité. Et
Et c'est là que l'idolâtrie commence. Parce que l'idolâtrie se définit comme le fait de représenter Dieu par des choses humaines et de donner à ces choses humaines-là le culte qui ne devrait être réservé qu'à Dieu. Donc, le monde entier, depuis Adam et Ève, quand Dieu s'est retiré de leur présence, a commencé à faire de l'idolâtrie. Le plus grand mensonge que j'entends dans mon pays, et il faudrait que les gens lisent leur livre d'histoire quand ils vont à l'école, est le suivant. Vous savez, quand je dis ces choses-là, ce n'est pas que je n'aime pas nos frères. Je les aime tellement que je suis prêt qu'ils m'insultent, qu'ils me persécutent pour la vérité. Bon, ils veulent me tuer, mais ils ne peuvent pas parce que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est en eux. Mais le reste, c'est des bavardages. Je suis prêt à t'injurier pour qu'ils entendent la vérité qui va les affranchir. Parce qu'ils doivent entendre la vérité. Et je rends grâce à Dieu parce que pour quelques tondus et têtus, il y a des milliers qui comprennent et qui donnent leur vie à Jésus tous les jours et qui voient la différence. Nous devons rendre grâce à Dieu, ce n'est pas un phénomène qui ne change pas. L'idolâtrie recule. Il y a quelques années, tu peux aller à Javier, tu peux aller à Calavi, tu as des endroits, tu peux sortir en pleine journée. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en fuite? Non. Le Bénin se développe, l'évangile avance, la lumière avance dans mon pays et continuera d'avancer au nom de Jésus. Non, nous ne devons pas nous décourager. Avec l'arme de l'amour, nous allons continuer d'avancer dans le règne de Satan. Nous n'allons pas combattre les gens qui font de l'idolâtrie. Si tu as des frères qui sont en prison, quand tu viens pour les libérer, tu ne bombardes pas la prison, sinon tu vas les tuer. Tu viens, tu neutralises le gardien de la prison et tu vas ouvrir les portes de la prison. Notre vocation est de neutraliser les forces sataniques, les esprits dans les lieux ténébreux qui les tiennent prisonniers pour les libérer. Et comme la seule arme offensive que Dieu nous a donnée, c'est le pouvoir de la parole, c'est l'épée du Saint-Esprit, nous l'utilisons que ça leur plaise ou non contre les esprits mauvais qui les perdent. La preuve, quand ils font leur rituel, ils utilisent la parole, on appelle ça Bessissa. Chez nous, ça s'appelle la prophétie. C'est le même gendarme, seulement qu'il y a la bombe atomique et il y a la bombe. Ce n'est pas la même catégorie. Le chrétien doit combattre avec l'amour, mais avec la parole. Donc, ils ont essayé de retrouver Dieu par tous les moyens. Et ils continuent de le chercher jusqu'à aujourd'hui. Et comme il n'a pas bien voulu se laisser trouver sur ce chemin, chacun selon son inspiration, selon sa philosophie, invente quelque chose qu'il appelle Dieu et lui donne un culte. La parole de Dieu est claire. Il n'y a qu'un seul chemin qui a été donné aux hommes pour venir à Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout ça là, Dieu les appelle des idoles, de l'infamie, de l'abomination, tout sauf des collaborateurs. Et donc je disais que le plus grand mensonge au Bénin, c'est de faire croire aux Béninois idolâtres que l'idolâtrie est l'affaire de nos parents africains et que c'est né en Afrique et c'est notre propriété culturelle d'Afrique et qu'en le faisant, on est fidèle à la mémoire de nos parents. C'est vrai qu'on dit que le Bénin est le berceau du vaudou. Malheureusement. Mais le vaudou n'est qu'une infime partie de l'idolâtrie mondiale. L'idolâtrie ne s'arrête pas au vaudou et ne commence pas par le vaudou. Allez chez les Indiens, vous allez voir de l'idolâtrie. Chez les Amérindiens, vous allez voir de l'idolâtrie. En Europe, il y a plein de groupes ésotériques avec des hiboux, des loups-garous, des magiciens, de la chiropratie et des si, qui sont bien des idolâtries. Dans la Bible, les Juifs étaient idolâtres. Quand le peuple juif est sorti du désert, à peine Moïse est parti prier qu'ils ont fabriqué un veau d'or. Ce n'étaient pas des Africains.
Hein?
La Bible révèle plein de rois juifs qui ont fait de l'idolâtrie, que Dieu a frappé pour l'idolâtrie. Babylone, les Perses, les Mèdes, les Grecs, les Romains, dont vient l'église catholique romaine, étaient tous des champions de l'idolâtrie. Et quand vous lisez l'histoire, jusqu'au siècle des Lumières, et comme par hasard, nous sommes le sel et la lumière du monde, l'Europe était très pauvre avec la peste à Paris, comme le voit dans les fables de la fontaine et consorts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Mais au siècle des Lumières, par la poussée de la culture judéo-chrétienne, ils ont balayé l'idolâtrie, ils ont commencé à suivre les valeurs chrétiennes. C'est pour ça qu'on appelle l'Europe le monde judéo-chrétien et ils se sont développés. Les Américains ont fondé leur pays sur la Bible. Ils sont devenus premier, sans deuxième dans tous les domaines. Et l'Amérique est globalement prospère. Mais il y a la pauvreté en Amérique. Là où il y a des Béninois qui font vaudou, ça s'appelle Haïti. Et Deutéronome 28 nous explique bien ça. Si tu obéis à l'Éternel, voilà les bénédictions. Vous verrez que c'est les caractéristiques du développement. Si tu désobéis à l'Éternel, voilà les malédictions, c'est les caractéristiques du sous-développement. Donc c'est un honteux mensonge que de dire aux Béninois que l'idolâtrie c'est l'affaire des Noirs et que la religion chrétienne ou que le christianisme c'est l'affaire des Blancs. C'est faux. Il faut être un menteur pour dire ça.
Oui,
Le monde entier a fait de l'idolâtrie en cherchant Dieu. Et quand ils ont rencontré Jésus, qu'ils ont rencontré Dieu, ils ont balayé l'idolâtrie, seulement que les Africains sont les derniers à chercher encore désespérément Dieu. C'est pour ça aussi qu'on est les derniers sous-développés.
Et oui, il a dit l'été, ouais. Aïe, on
Les blancs domptent la nature parce qu'ils comprennent par la foi que nous avons une autorité. Les noirs africains sont encore les seuls à s'avilir à la nature parce qu'ils prennent la nature pour des idoles. Donc ce n'est pas vrai que l'idolâtrie est africaine, elle est mondiale. Elle ne reste qu'africaine parce que les autres ont déjà ouvert les yeux sur la vérité de Jésus avant eux. Et tôt ou tard, mon Afrique sera la même chose. Mais quand les idolâtres n'ont aucun argument, ils vont toucher la fierté africaine pour dire aux gens, vous ne pouvez pas laisser l'idolâtrie parce que c'est l'affaire de nos parents, il faut être acculturé, vendu aux blancs pour être chrétien. Mais le plus ridicule, vous savez quoi? C'est que des gens qui portent costume matin, midi, soir, cravate matin, midi, soir, qui mangent la nourriture des blancs, qui sont tout le temps sur Facebook, qui sont sur Internet, qui ne connaissent même pas leur village, me disent qu'ils sont idolâtres parce qu'ils sont africains, à moi qui porte du tissu 24 heures sur 24.
Et
c'est un Français qui me dit ça. Il me dit pas son enfant. Il ne comprend même pas son
enfant.
Chasser Ismaël et il va étendre des choses à ma manière.
Pour montrer à l'homme la différence. Est-ce que Dieu fait quand il a trouvé l'homme? Et il dit à Abraham, la promesse n'est pas pour Ismaël, c'est pour Isaac. Je ne te bénirai pas dans ce que tu fabriques pour me plaire. Je te bénirai quand tu prends ce que je te donne. Évidemment, Ismaël est l'enfant d'Abraham. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Je vais le bénir. Il sera riche. Il sera contre tout le monde. Mais le monde entier sera contre lui. Suivez mon regard jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai. C'est ça qu'on gère jusqu'à aujourd'hui. Mais Isaac, je m'en occupe. Isaac, on a eu Jacob. Jacob, on a eu Joseph. Mais quand Joseph est devenu numéro 2 d'Égypte, la famille de son père Jacob était encore loin. Quand ils sont venus en Égypte, ils n'étaient qu'une famille. Je vous rappelle que l'Égypte, c'est l'Afrique. Et donc, ils sont restés en Égypte 430 années. Et l'Égypte est aussi était l'une des nations les plus païennes. C'était les champions de l'idolâtrie et de l'occultisme. Ils sont restés là-bas presque la moitié de 1000 ans. Et en fait, c'est là-bas que le peuple juif s'est formé. Ils sont entrés une famille, ils sont sortis, ils étaient 2 millions. Le peuple juif est donc né en Afrique.
Donc, tous les sikuka en Afrique est tombé.
C'est pas en Afrique, l'Égypte.
L'Égypte ou l'Afrique, il y a une histoire géo.
La mer rouge là. C'est sur quel continent? C'est pas en Afrique ou bien c'est moi qui connais plus mes cours de géographie? Le plus grand miracle de Dieu de la Bible dans l'Ancien Testament, c'est l'ouverture de la mer rouge, c'était en Afrique. Quand Jésus est né, pendant que les Juifs n'avaient rien vu, les rois mages qui sont venus du monde là-dedans étaient de quelle couleur? Il y en avait de noir dedans, c'est pour ça, même chez les petits blancs, pour se moquer des gens, on dit tu es noir comme un roi mage. C'est-à-dire que les trois premières personnes au monde, et ce n'était pas des bébés, c'était des rois qui faisaient de l'astrologie puisqu'ils ont étudié les étoiles. Et l'astrologie, c'est du païen. C'est donc des païens dont certains étaient africains qui sont les premiers avant les juifs venus adorer Jésus pour dire ça, c'est Dieu qui est là. Et à ce moment, Hérode le juif voulait le tuer. On me dit aujourd'hui que Jésus est pour les juifs. Vous connaissez combien de juifs chrétiens? Si vous connaissez un peu l'histoire, il y a beaucoup de juifs chrétiens. Quand Hérode le juif voulait le tuer, Dieu s'est révélé à Joseph. Et lui a demandé de fuir où avec Jésus? Encore en Afrique. Donc pour sauver Jésus du juif, on le fait, Dieu le fait fuir en Afrique. Et mes parents me disent aujourd'hui que Jésus n'a rien à voir avec l'Afrique, il est pour les blancs.
Et
Jésus, c'est Dieu qui décide enfin de retrouver l'homme. Moïse avait donné la loi. Ce qu'il faut faire pour obéir à Dieu. Abraham avait apporté la foi. Mais si tu as foi en Dieu que tu veux lui obéir, est-ce que tu arrives à lui obéir? La réponse est non.
Nous avons dit de Mahomet.
Parce que depuis que l'homme a perdu la communion avec Dieu, il n'a même plus la capacité d'obéir à Dieu, même si c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que vous allez voir dans les pratiques de l'idolâtrie, il y a quelques valeurs qui sont de bonnes valeurs qu'on trouve dans le christianisme. Mais autant qu'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas obéir à la loi, autant aucun idolâtre ne peut plaire à Dieu parce qu'on ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. Les juifs qui ont eu la loi avec Moïse n'ont pas pu obéir à la loi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la loi et la foi. Il faut avoir la grâce. Et la grâce, c'est Jésus qui l'a amené.
Tous les yeux des pays. Le bon assigant, c'est ton ma wado et tout. Il donne l'idiot pour s'y en offrir. C'est pas bon, c'est ton océan. Bédé moi. Tu en as cet océan. Dieu mieux de l'œil de Jésus Christ.
Donc, dans son amour, Dieu envoie d'abord à son peuple la foi.
Maoussène, l'idiot de ton
avec Abraham. Ensuite, il lui envoie la loi.
Et
la loi a été envoyée quand? Au moment où le peuple était en train de faire le veau d'or, en train de faire l'idolâtrie, Dieu a envoyé la loi. Et l'un des commandements de la loi, c'est: tu ne représenteras Dieu par rien, tu n'adoreras Dieu seul. Les gens récitent ça, mais ils décrivent après qu'ils sont fiers, mais fiers d'être idolâtres, et que chacun doit faire comme il veut dans la foi.
L'homme,
Ce n'est pas possible. Je préfère encore un païen qui me dit qu'il est idolâtre qu'un chrétien qui me dit que lui il est chrétien. Mais après tout, l'idolâtrie, c'est notre culture, il n'y a rien de mauvais. Il faut avoir honte de dire des choses comme ça. Si vous n'êtes pas chrétien, ne dites pas que vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien, soyez au moins honnête avec vous-même, avec Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Arrêtez de dire des bêtises.
L'homme, Christian, on est Dieu. Alors, mais il est Jésus. Et moi, si vous donnez une minute, je l'ai dit, mais le problème, c'est que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit,
et c'est là la différence entre la religion et la foi. La religion, c'est quand les hommes se réunissent autour de la doctrine de quelqu'un et de leur croyance pour essayer de plaire à Dieu. On le fait, mais en croyant qu'on est en train de faire plaisir à Dieu. Mais en suivant la méthode que nous croyons être la bonne, selon dit, laissez chacun vers sa religion, chacun est libre de sa religion. Oui, chacun est libre d'inventer sa manière de plaire à Dieu. Mais quand on parle de la foi, ce n'est plus l'homme qui décide. C'est plus lui qui fait. C'est Dieu qui dit, maintenant voilà comment on va faire. Laissez tout tomber, comme Abraham, et suivez-moi. Où tu nous emmènes? Tu n'as pas besoin de savoir. C'est un pays où coule le lait, le miel. Je vais te prendre. Je vais bénir tes enfants. Les nations de la terre seront bénies en toi. Tu seras la tête et non la queue. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. C'est là où Dieu dit, laisse tout ça. Suis-moi. À ma manière. Priez à vos manières. À ma manière. Rigoureusement à ma manière. Et c'est là où Dieu dit, si tu m'obéis, voilà les bénédictions. Si tu me désobéis, et que tu fais comme tu as envie de faire, voilà les malédictions. Prenez la Bible, lisez Deutéronome 28. Vous allez voir que tout ce qui nous arrive est écrit dedans. J'ai même vu dedans, j'ai eu des chairs de poule. Où Dieu dit quelque part que quand la misère sera là, en train d'écraser les gens qui n'obéissent pas à Dieu, quand la faim sera sur eux, qu'ils seront exploités, que leurs enfants seront déportés et exploités par l'Occident. Aujourd'hui, c'est l'autorité visa, c'est Accès Canada. On appelle ça la diaspora, c'est-à-dire les esclaves africains volontaires chez les autres. Vous allez travailler, vous ne récolterez jamais les fruits, c'est d'autres qui vont les exploiter. Et toutes ces malédictions sont là, mais celle qui m'a le plus effrayé est la suivante. La Bible dit que ça va arriver à un point tel que les gens les plus doux vont manger leurs enfants, leurs maris, et ils se disputeront la chair de leur conjoint. Et que ce sera la conséquence? Ce sera la conséquence de la souffrance absolue. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il s'agissait de manger physiquement et je faisais comme elle, je croyais que ça n'était pas arrivé. Jusqu'au jour où le Dieu me dit, ce que vous appelez sorcier, sorcière, là, ils mangent qui? Si ce n'est pas leurs enfants, ce n'est pas leur mari. Vous n'avez pas vu qu'au Bénin, gens mangent déjà leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, tellement ils ont des problèmes. Quelqu'un de normal va dans la nuit pour bouffer son enfant et le donner en sacrifice? Donc la prophétie s'est accomplie parfaitement. Donc, nous n'avons pas à faire de la religion, nous devons suivre Dieu dans la foi. Et Dieu nous dit dans 1 Jean 5 à partir du verset 20. Verset 20. Nous le savons. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ. Lui, il est le vrai Dieu. Et il est la vie pour toujours. Mes enfants, faites attention. Ne suivez pas les faux dieux. Nous, nous savons que, parce que beaucoup de gens ne savent pas, ils n'ont pas reçu le renouvellement de l'intelligence du Saint-Esprit qui permet de discerner ce que nous disons là. Et notre combat par la prière, par la foi, par l'amour, doit être de supplier le Saint-Esprit de les toucher, de leur donner la parole qui va les affranchir et leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent où est le vrai Dieu et qu'ils arrêtent d'adorer ce que Dieu a créé. Parce qu'en fait, ils ont l'impression que comme on ne peut pas trouver le vrai Dieu, il vaut mieux prendre des intermédiaires de Dieu. Ils ne savent pas que le vrai Dieu est là, qu'il est vivant, qu'il nous parle, qu'il nous aime, qu'il agit tous les jours, qu'il est là. Ils n'ont qu'à venir le goûter pour qu'on ne teste pas les choses. Le problème, c'est que c'est comme les rails, c'est parallèle. On ne peut pas être sur le chemin de l'idolâtrie et rencontrer Dieu quelque part. Il faut laisser le chemin de l'idolâtrie changer de chemin. Parce que l'idolâtrie, la Bible dit que Dieu le considère comme un adultère envers lui. C'est-à-dire, nous sommes censés être spirituellement l'épouse de Christ. Et à travers les idoles qui sont faites manipulées par Satan, nous adorons Satan. Donc, nous faisons de l'infidélité à Dieu avec son pire ennemi, Satan.
Imaginez quand quelqu'un se sent victime d'adultère, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'énerve plus que ça au monde? Et qui l'humilie plus que ça au monde? Mais sachez que chaque acte
d'idolâtrie, est un adultère envers Dieu. Et imaginez comment Dieu va se sentir et comment il va réagir. En fait, Dieu les punit pour ça tous les jours. Mais comme ils n'ont pas l'intelligence ouverte, comme le dit Jésus, ils ont les yeux pour voir, ils ne voient pas, même disent Ounoukou. Ils ne voient pas le lien qui entre leur problème et l'idolâtrie qu'ils font. Est-ce que quelqu'un d'heureux peut passer du temps à parler, faire la comédie, tout ça juste pour avoir un poulet? Et la chose ne demande que des choses mangeables, jamais de choses non mangeables. Si quelqu'un a faim, il n'a qu'à aller travailler, on n'a pas besoin de dire n'importe quoi. Et les vieux dans nos villages sont pour certains très sages. Ils disent souvent, il faudrait qu'on apprenne ça là aussi chez nos ancêtres. Si vous êtes sage, le diable n'aura plus à parler. Et quand vous allez consulter les gens, souvent ils sont plus psychologues que vous, ils vous manipulent. Si je dis que j'ai consulté et que je vois que tu as un problème d'argent, ou bien si ce n'est pas ça, c'est un problème de travail, ou bien c'est un problème de couple, est-ce qu'il y a une chance que tu ne sois pas dans un de ces trois problèmes au monde? Celui qui dit ça, tu dis qu'il a vu, quoi après que tu es bête?
Mais waouh, comme tu es bête là, et il y en a un ouais, j'aurai un ouais, ah ouais, bête, mais comme moi, à quand on se voit? Mais là, dans le monde, il y en a, bas au cou, après la citoyenne, à bas au cou, un dos à souro.
Mais parfois ils ont de vraies révélations. Parfois ils ont de vraies révélations. Pourquoi? Parce que c'est des collaborateurs de Satan comme nous sommes des collaborateurs de l'Esprit Saint. Et donc comme le Saint-Esprit nous donne la révélation des choses spirituelles, le diable donne à ses collaborateurs la révélation des choses spirituelles aussi. C'est comme dans la guerre, chaque armée a un service de renseignement qui nourrit l'armée en renseignement.
Donc,
ils peuvent avoir le bon renseignement venu de Satan, mais c'est que lors du combat, c'est là où on voit la capacité des armées. Je veux vous dire par là que beaucoup de chrétiens vont faire de l'idolâtrie parce qu'ils vont consulter. Et quand on leur dit quelque chose qui est vrai, ils disent voilà. S'il a dit quelque chose qui est vrai, c'est qu'il est connecté avec Dieu. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'une armée a une information vraie sur le champ de bataille qu'il est connecté à la vérité qu'il va gagner. Et là, vous laissez manipuler. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, on parle d'idolâtrie, idolâtrie. Il y a plein de chrétiens qui la nuit vont chez les féticheurs. Et vous devriez en avoir honte. Ça veut dire que vous êtes à l'église, mais vous ne connaissez pas encore le Dieu que vous servez. Si vous le connaissiez, vous auriez honte d'y aller, je vous dirai pourquoi. Il faut qu'on se dise la vérité. On n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas tout vous expliquer. Mais je vais vous rappeler une chose importante pour que vous arrêtiez d'aller donner à manger aux gens qui ont faim. Mais à toutes les cérémonies de nos parents, je l'ai souvent expliqué, mais je le réexplique ici parce que c'est au cœur du sujet. Ils utilisent deux choses, l'eau et le sang. L'eau pour apporter la paix et le sang pour la puissance, parce que la puissance est dans le sang, dans la vie. Pour la puissance. Et vous allez voir que le ministère de Jésus a commencé par son baptême dans de l'eau. Et que son premier miracle a été transformé de l'eau en vin. Et son dernier miracle a été de transformer le vin en sang, le sang qui a coulé. Et quand il est mort, la croix de l'eau et du sang sont sortis de ses côtes. Jésus a constamment manœuvré avec l'eau et le sang. Du début à la fin, ça commence, ça termine son ministère. Vous savez que quand quelqu'un est numéro 2, qu'il démissionne, quand il crée quelque chose, il copie toujours d'où il est venu. Lucifer était numéro 2 au ciel. Quand il a été chassé du ciel, qu'il a été en enfer, il a imité la méthode de Dieu en beaucoup de choses.
Lucifer a wayi agali eno se mauda yo.
Dieu a tout fait par la parole, le diable fait tout par la parole. Dieu a ses anges, le diable a ses démons qui ne sont rien d'autre que des anges qui suivent Satan. Dieu manœuvre avec la puissance de l'eau et du sang. Satan manœuvre avec la puissance de l'eau et du sang. Quand on va chez nos parents, pareil chez les juifs, pour montrer que ça n'a rien à voir avec l'affaire d'Afrique, il faut les faire niaiser là. Quand vous voulez faire une cérémonie, tout le pouvoir est dans le sang. Et on sait que plus l'animal est petit, moins son sang est puissant. Plus l'animal est grand, plus le sang est puissant. C'est pour ça que le sang d'un mouton est plus puissant que le sang d'une poule. Et le sang du bœuf est plus puissant que le sang du mouton. Donc, quand tu as un petit problème, on dit d'amener deux oiseaux. Le problème grandit, on va te dire un coq. Le problème monte en puissance, on va te dire un mouton. Quand on te dit bœuf, c'est que tu es un ministre ou un président ou encore que tu as un problème très sérieux. Mais quand ça dépasse ça, il monte en puissance. Il faut le crâne d'un homme. Il faut le sang d'une personne. Parce que quand on arrive au niveau des hommes, le sang est encore plus puissant. Vous êtes d'accord avec moi? Parfait. Plus l'animal est pur, plus le sang est puissant. C'est pour ça qu'ils préfèrent le sang des vierges au sang de n'importe qui. C'est pour ça qu'on demande le mouton tout blanc ou tout noir sans tache. Encore tout blanc, tout noir sans tache pour chercher la pureté. Jusque là, on me suit. Parfait. En fait, comme nous connaissons bien le diable au Bénin, je parle volontairement des pratiques du diable qui a sous nos yeux pour vous expliquer le lien avec les pratiques de Dieu. Quand vous allez chez les féticheurs, qu'est-ce qu'ils font? Supposons que c'est un mouton, c'est-à-dire un agneau. Vous amenez votre agneau, on vous dit quoi? On dit enfant, charge-le. C'est-à-dire tu mets la main sur la tête. Et tu dis tes problèmes. Donc tu le charges de tes malédictions. Toi, tu es arrivé plein de maladies, plein de planifications d'accidents, plein de problèmes de couple. Tu les charges au mouton. On tue le mouton. Et toi, tu repars libre. Le mouton part, il est perdu. C'est ça, n'est-ce pas? Parfait. Et quand on vous demande d'aller jeter le mouton ou la partie qu'on va jeter parce qu'une partie se mange aussi, on vous dit de le jeter à un carrefour ou sur un tas d'ordures. Le tas d'ordures, c'est Golgotha. Ça veut dire tas d'ordures. Allez voir le sens de Golgotha. Et tout carrefour est une croix au sol. Tout carrefour est une croix au sol. C'est-à-dire que le féticheur, il charge le problème à l'agneau, il le tue, Et il va le jeter sur une croix au sol. Ou sur Golgotha. Jésus. La parole de Dieu nous dit que c'est l'agneau de Dieu envoyé pour ôter les péchés du monde. Devant Ponce Pilate. Jésus de Nazareth était là, innocent. C'est l'agneau de Dieu. Jésus de Barnabas était là, nous représentant toi et moi, coupable. Le peuple prend la culpabilité de Barnabas qu'on devait tuer et la dépose sur Jésus de Nazareth. On demande à Barnabas de rentrer comme un innocent alors que c'est lui le grand bandit comme toi et moi. Et on prend Jésus de Nazareth, on le tue à la croix sur
Golgotha.
Ce que les féticheurs font, c'est de l'imitation en paillant du sacrifice à la croix. Pourquoi? Si quelqu'un sacrifie un mouton pour te tuer, tu dois prendre un animal plus grand, le bœuf. Si tu prends un bœuf, tu dois prendre deux ou trois bœufs. Toi, tu dois prendre plus. Ça veut dire que un malin, malin et demi. Quand le diable veut t'attaquer et il fait un sacrifice de sang, tu ne peux le neutraliser que par un autre sacrifice de sang plus puissant que lui. Ou bien, parfait. Mais si on fait sacrifice, 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 qu'est-ce qu'on peut sacrifier que rien ne peut jamais dépasser? Qu'est-ce qu'on peut sacrifier qui ne peut jamais dépasser en pureté? Si Dieu est venu à la croix, c'est parce que à cause de ce principe de la puissance dans le sang, il devait faire le sacrifice de la chose la plus grande au monde, soit Dieu, et de la chose la plus pure au monde, soit Dieu, afin que Satan ne puisse plus jamais rien faire. Alléluia. C'est pour ça qu'aucun ne peut rien faire contre moi. Aucun. Ça veut dire que si leur pouvoir c'est de sacrifier des animaux en cherchant la quantité des animaux, en cherchant la taille des animaux, en cherchant la pureté des animaux, on a sacrifié pour moi Dieu dans sa pureté éternelle et totale. Il ne peut jamais rien trouver pour me neutraliser. Quand ils ont des problèmes, ils doivent prendre rendez-vous et prévoir l'argent pour le féticheur. Quand moi je dis le sang de Jésus, c'est immédiatement et totalement d'accord. Il ne peut pas me battre. Quand ils sacrifient leur mouton, leur bœuf ne se réveille pas. Mon sacrifice est vivant au ciel en train de faire à côté du Père pour moi. Vous allez voir que chez les Juifs, ils étaient obligés de renouveler les sacrifices tous les ans. Et que nos parents font les huétanous tous les ans. Parce qu'une des règles spirituelles, c'est que le sang des animaux et des hommes n'a de l'effet que pendant une année. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire les cérémonies annuelles pour leurs fétiches. Même les Juifs, la Bible nous le dit, ils devaient renouveler leurs sacrifices tous les ans. Donc quoi qu'ils fassent, ça n'a de l'effet au maximum que pendant un an. Mais mon Dieu est éternel. Mon sacrifice est éternel. Il est définitif. Il est imbattable.
Et
quand leur sacrifice meurt, il reste au séjour des morts. Mon sacrifice à moi est parti prendre la clé du séjour des morts et me la rapporter.
Voici ça, mais dès le temps. Écoute, bon, j'étais bien à de et j'étais là à couton, mais quand ça s'y soit, mais il toka, toka, bon, dré à l'automne, les chavis à bas de couton, sort mi, et moi, de roi, checké, bon, ton lit. Bon, la cité à Santo, à ton gobe, bon, le bec à ça, il m'a vaut,
Et il me donne une autorité. Quand tu sacrifies ton mouton, tu n'as aucune autorité. Moi, j'ai l'autorité. Que ce que je lis est lié. Et ce que je délie est délié. J'ai l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et les portes du séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre moi. Parce que s'étant réveillé, Christ vient habiter en moi et fait de moi le temple du Saint-Esprit. Non, au lieu d'être tout le temps en train de chercher Dieu dans les idoles, Dieu me ramène à la situation du jardin d'Éden en revenant à moi, comme ils sont en train de chercher depuis en courant partout. Donc en Jésus, non seulement nous trouvons Dieu, mais nous devenons les temples, les ambassadeurs de Dieu. Envoyés non seulement en Judée, à Jérusalem, mais dans tout le monde pour le révéler à ceux qui le cherchent tous les ans dans leurs idoles. Alors, s'il est vrai que le vaudou, c'est la recherche de Dieu, que nos frères vaudous veuillent bien accepter que nous leur proposions de rencontrer le Dieu qu'ils cherchent. Et notre Dieu n'étant pas mort, tu n'as pas besoin de t'apprêter à le croire sans démonstration. Quand on va te le présenter, il va te démontrer lui-même en live qu'il est vivant et que tout ce que tu cherchais là à tes pieds. Et notre Dieu n'est pas silencieux. Quand on lui parle, il nous répond. Il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Je ne devine pas ce qu'il veut dire parce qu'il parle clairement et audiblement. Je le répète, nous aimons tout le monde. Et même si nous donnons parfois l'impression d'être offensifs contre l'idolâtrie, nous aimons nos frères, mais c'est le diable qui les perd que nous n'aimons pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui étaient, qui sont venus au Seigneur, quand ils témoignent, tu as pitié de ceux qui sont prisonniers de ces choses-là. Chacun de nous, chaque chrétien, a le devoir de vivre la parole de Dieu. On doit d'abord la comprendre et on doit la vivre et on doit la partager. On doit aider les autres à voir Dieu en action, à toucher Dieu, à sentir Dieu et à jouir de Dieu. Pour cela, vous ne devez pas être peureux, je termine sur ça. La plupart des chrétiens sont des peureux. Parce que tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle à nos frères animés sans qu'ils ne t'insultent et ne te menacent. Quand tu as un enfant qui est adolescent, qui est dans la puberté, tu lui dis de ne pas faire des bêtises. Je connais des enfants qui prennent couteau sur leurs parents. Mais ça n'empêche pas les parents de les aimer.
Donne-lui vite, tu es au clé, puis où est-on à combien?
Donc partout dans le monde où tu veux dire la vérité à quelqu'un pour le sauver, il va d'abord te critiquer, t'injurier, te persécuter. Et s'il peut te tuer, il va essayer. Mais si tu as peur et honte de Jésus, il aura honte de toi. Donc c'est pas la peine de le prier au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul, tu dois apprendre envers et contre tout, sous les coups, sous les menaces, sous les injures, à annoncer la bonne nouvelle. Que ça leur plaise ou non, ceux qui sont sûrs ne peuvent pas te tuer. Et c'est pour ça que Jésus nous dit pour terminer, vous aurez des tribulations. S'ils ont persécuté Jésus, ils vous persécuteront. Et Jésus a été persécuté d'abord par les religieux juifs, pas par les païens juifs. Donc parfois, vous allez voir des chrétiens qui vont encore plus vous persécuter que les païens. Vous saurez alors reconnaître qui est pharisien parmi tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, nous devons subir les douleurs de l'enfantement pour leur bonheur. Et prier pour que Dieu leur donne la grâce de les découvrir, afin que Satan ne les piège plus dans leur recherche de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous en donner le vouloir et le pouvoir. Parce que même si c'est le Saint-Esprit qui convainc, il nous dit qu'il ne peut convaincre personne si l'évangile ne lui est pas annoncé. Et que l'évangile ne peut pas être annoncé si personne n'a le courage d'aller l'annoncer. Alors même si cela doit vous coûter la vie, il doit nous coûter la vie, nous devons nous lever et annoncer la bonne nouvelle. Sachant que Dieu va honorer sa parole et démontrer qu'il est le vrai Dieu. Que Dieu vous donne le courage de vous lever et de porter l'évangile.
Amen.
Amen.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Dieu vous bénisse.